Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Le 18e anniversaire de l'assassinat de l'ex-premier ministre libanais Rafik Hariri, Saad Hariri est à Beyrouth à l'occasion de cette commémoration. Un anniversaire dans un contexte de grave crise, notamment économique au Liban. Nous y reviendrons avec plusieurs invités, l'ancien ministre Marwan Amadé, le politologue Qatar Abou Diab et le coordinateur du Courant du Futur en France, Abdallah Ralaf. En ce 18e anniversaire, la veuve de Rafik Hariri, Nazek Hariri, souligne que le Liban vit une période critique et très difficile. Vive condamnation de la plateforme des ONG françaises pour la Palestine après la décision d'Israël de légaliser 9 colonies en Cisjordanie occupée. La colonisation qui est illégale selon le droit international. Nous y reviendrons avec Pierre Motin, responsable plaidoyer de la plateforme. De nouvelles arrestations dans les milieux politiques et médiatiques en Tunisie. La police tunisienne a arrêté Nourdine Biri, un dirigeant du parti Ennahda, ainsi que Nourdine Boutar, le directeur général de la radio privée Mosaïque FM. Le 18e anniversaire aujourd'hui de l'assassinat de l'ex-premier ministre libanais Rafik Hariri. Il a été tué le 14 février 2005 avec 21 autres personnes dans un attentat à Beyrouth. Saad Hariri est à l'occasion de cette commémoration de passage dans la capitale libanaise. L'ancien premier ministre avait annoncé le 24 janvier 2022 une suspension de son action politique et de l'activité de son parti. Cet anniversaire intervient dans un contexte de grave crise, notamment économique et politique au Liban. Entretien avec l'ancien ministre Marwan Amadé.
Ce qu'il faut absolument retenir, c'est qu'au 18e anniversaire de l'attentat qui a coûté la vie au président Hariri, le Liban se retrouve totalement dans la confusion, la détresse, la faillite, la division, la perte de souveraineté, et pratiquement la reddition des pouvoirs publics qui étaient tenus, qu'ils sont toujours de manière occulte, par le Hezbollah et le parti du général Michel Aoun, le Liban qui a été livré pieds et poings liés à l'Iran, avec toutes les conséquences que ceci a entraînées sur le plan de la vie de tous les jours chez les Libanais, sur le plan culturel, sur le plan de leur relation avec le monde arabe, l'interland arabe et avec tous les amis de l'étranger d'Est et d'Ouest. Et finalement, le Liban qui s'était cru grâce au sang de Rafik Hariri libéré de l'occupation syrienne s'est retrouvé sous une occupation encore plus tenace, encore plus pesante et très lourde en conséquences locales et régionales, qui est celle de l'occupation iranienne du régime des Mollahs de Téhéran. Voilà où nous en sommes. C'est le bilan des 18 années qui ont suivi la mort de Hariri. Vous vous souvenez bien que tout a été fait pour mettre en échec le tribunal international chargé d'enquêter et de rendre son verdict. Malgré cela, le tribunal a pu, en appel, confirmer que c'était un membre éminent du Hezbollah, M. Salim Ayyash, qui avait participé avec d'autres à l'assassinat du premier ministre. Comme M. Hassan Nasrallah a pratiquement sanctifié et déclaré que les mains qui s'étendraient ou qui essayeraient de mettre la main sur un des inculpés ou leur complice seraient purement et simplement coupées. Donc nous nous retrouvons donc dans un déni de justice, ou plutôt d'application de la justice, et avec un ensemble de catastrophes qui ont entraîné le Liban dans ce que Michel Aoun avait promis aux Libanais, c'est-à-dire l'enfer, la descente aux enfers a bien eu lieu et je pense qu'elle continue encore avec ce refus d'élire un président, avec cette insistance à maintenir les frontières grandes ouvertes, à maintenir l'emprise sur le port, un port détruit avec tout ce qui s'est ensuivi comme victimes et dommages, sur l'aéroport, sur les voies de communication avec l'étranger et sur tout ce qui constitue qu'on avait hérité du mandat français, mais qu'on avait maintenu finalement à travers les différents mandats de l'indépendance, c'est-à-dire les institutions politiques, parlementaires, judiciaires, administratives et sécuritaires.
Et comment avez-vous accueilli Marwan Amadé la prorogation limitée du mandat du tribunal spécial pour le Liban jusqu'au 31 décembre 2023?
C'est peut-être une tentative d'un raccord avec une reprise plus tard dès que les moyens matériels et les possibilités juridiques seraient rétablis, si on peut reprendre, mais sur le dossier Hariri lui-même, de la résolution du Conseil de sécurité qui était claire, nette et précise, obtenue à l'époque grâce à la France du président Chirac et d'autres amis du Liban. Si les moyens sont remis par l'ONU pour réactiver, on pourra peut-être enquêter sur tous les autres crimes et peut-être parviendrons-nous à imposer une enquête internationale sur un crime non moins énorme qui est celui ce crime commis contre la ville de Beyrouth, ses habitants et son port qui était le fleuron de l'ouverture du Liban sur la Méditerranée.
L'explosion du 4 août 2020 et le juge Tarek Bitar qui a récemment annoncé reprendre l'enquête, mais avec de grandes difficultés.
Il est toujours sous le siège de tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé ou par leur négligence criminelle ou par leur participation active à l'explosion et à ce crime du port de Beyrouth.
L'ancien ministre libanais Marwan Amadé, en ce 18e anniversaire, la veuve de Rafik Hariri, Nazek Hariri, lui rend hommage. Elle souligne que le Liban vit une période critique et très difficile par le dialogue et des décisions correctes. Nous devons préserver notre existence et l'intérêt du pays, souligne-t-elle. Nazek Hariri qui plaide pour une nation souveraine, libre et indépendante. À l'occasion de cet anniversaire, le politologue et chercheur en géopolitique Qatar Abou Diab.
18 ans après l'assassinat, le lâche assassinat de Rafik Hariri, le Liban souffre toujours de cette disparition. Le Liban sans Rafik Hariri paraît comme un orphelin. Toute la démarche, tous les projets, toutes les initiatives de la reconstruction, de l'avènement de l'État libanais ont été avortées avec la disparition de Rafik Hariri. Tout l'Orient aussi souffrait de cette absence. Rafik Hariri était un symbole de renaissance nationale, un symbole des liens du Liban avec le monde arabe et le monde extérieur. Sa disparition a touché, a affecté le Liban profondément et pour cela, toute renaissance du Liban, tout retour du Liban serait adossé au nom de tous ceux qui ont donné pour ce pays, qui ont sauvegardé les valeurs de ces pays et en premier lieu les martyrs Rafik Hariri.
Le politologue et chercheur en géopolitique Qatar Abou Diab, je vous propose à présent d'écouter le coordinateur du courant du futur en France, Abdallah Ralaf.
Comme chaque année, nous commémorons l'assassinat du président martyr Rafik Hariri, mais c'est une date symbolique, nationale, politique, humaniste. Mais la mémoire de Rafik Hariri n'a jamais disparu de nous. Et plus les crises, comme vous avez cité, s'intensifient, et plus nous nous souvenons de Rafik Hariri. Vous voyez maintenant ces années difficiles. crise financière, effondrement monétaire, crise politique, pas de président de la République. Il liste un peu chaque jour le but de l'assassinat de Rafik Haïe, comme si les tueurs avaient voulu tuer le Liban en tuant Rafik Hariri, annulant l'avenir du Liban, sa liberté et son indépendance, son rôle dans la région et dans le monde. Il a voulu sûrement changer l'identité culturelle du Liban et tout espoir de construire un pays développé et avancé pour les générations futures. Il suffit de regarder maintenant, comparer ce qui se passe maintenant et les temps de Rafik Hariri, vous voyez un petit peu la différence. Rafik Hariri avait un projet, avait son projet, ses initiatives pour construire les pays et préserver la coexistence et l'unité du Liban. Et tout ce qu'on a voyé maintenant, c'est vraiment le contraire. Ce sont des effondrements, de l'évaporation des épargnes, des divisions de tous bords. Et d'un pays sans électricité, sans médicaments, sans les moyens élémentaires permettant de vivre dans la dignité. Avec Rafik Hariri, avec la guerre, après la guerre, nous avons osé rêver, et c'est très important d'oser rêver, que le Liban reviendrait comme il était avec son aéroport, son université, sa capitale. Nous avons osé rêver quand un étudiant libanais est sans université, il n'arrive pas à trouver une université, de se trouver le lendemain dans les plus grandes universités du monde. Ça, c'est l'héritage de Rafik Hariri. C'est l'héritage qui perdure à travers les temps et les générations. Mais aujourd'hui, on a toujours un petit peu d'espoir. On a l'espoir avec Saad Hariri, l'héritier de Rafik Hariri, qu'il portera toujours le flambeau, et on espère encore une fois oser rêver avec Saad Hariri de nous faire sortir de ces crises multiples pour arriver à construire un pays souverain, un pays prospère.
Le coordinateur du Courant du Futur en France, Abdallah Ralaf. La crainte d'une crise humanitaire et sanitaire après le séisme en Turquie et en Syrie, plus de 35 000 personnes sont mortes. Au-delà de ce très lourd bilan qui reste provisoire, des centaines de milliers de personnes se retrouvent sans abri. Le réseau électrique et le réseau d'eau potable sont aussi souvent hors service et les hôpitaux sont submergés. Le cabinet de sécurité israélien va légaliser 9 colonies en Cisjordanie occupée, des colonies illégales selon le droit international. Cette annonce survient dans un contexte de dégradation de la situation sécuritaire en Israël et dans les territoires palestiniens. Plus de 475 000 Israéliens résident dans des colonies en Cisjordanie, territoire où vivent 2,8 millions de Palestiniens. Pierre Motin, responsable plaidoyer à la plateforme des ONG françaises pour la Palestine.
La colonisation au regard du droit international et notamment des conventions de Genève est un crime de guerre partout dans le monde. Donc ça s'applique au contexte israélo-palestinien. Bien entendu.
Comment évolue l'ampleur de la colonisation aujourd'hui dans les territoires occupés ?
La colonisation s'intensifie de plus en plus. Elle a continué de s'amplifier ces dernières années, notamment sous le gouvernement précédent, le gouvernement qui s'appelait le gouvernement du changement, mais en fait qui a eu une politique de continuité en ce qui concerne la colonisation de la Cisjordanie. Aujourd'hui, on compte environ 475 000 colons israéliens pour 2,8 millions de Palestiniens en Cisjordanie, Jérusalem-Est incluse. Donc, on voit que la colonisation continue, devient encore plus importante, et là, on s'attend à une véritable explosion du nombre de colonies, de constructions, d'habitations, etc. pour les colons dans les prochains mois.
Notamment en raison de l'orientation politique du nouveau gouvernement israélien ?
Tout à fait. C'est le gouvernement israélien le plus à droite de toute l'histoire d'Israël, qui comprend notamment des partis suprémacistes juifs dans sa coalition. C'est un gouvernement qui, dans son accord même entre les différents partis, met en premier article le fait que sa priorité numéro un, c'est la colonisation de ce qui est appelé par le gouvernement actuel le Grand Israël, donc la Palestine occupée.
Et face à la dégradation ces derniers mois de la situation sécuritaire en Israël et dans les territoires palestiniens, estimez-vous que la question de la colonisation est suffisamment mise en lumière ?
Nous, on considère que non, bien sûr. Il y a des appels malheureusement devenus rituels de la part de la communauté internationale pour mettre fin à la colonisation, pour rappeler son caractère illégal. Mais pour beaucoup de pays occidentaux, on a l'impression qu'il y a un certain fatalisme par rapport à ce phénomène de colonisation. Nous, ce qu'on regrette aussi, c'est que Israël puisse, sans que ça pose de réaction particulière, dire que en réaction à la situation sécuritaire, elle autorise de nouvelles colonies, alors qu'on voit mal en quoi ouvrir de nouvelles colonies de peuplement peut avoir une quelconque dynamique positive pour la paix entre Israël et la Palestine.
Pierre Motin, responsable plaidoyer à la plateforme des ONG françaises pour la Palestine et le chef de la diplomatie américaine, s'est dit profondément préoccupé par cette décision d'Israël de légaliser 9 colonies en Cisjordanie occupée. Anthony Blinken déplore également un projet de construction de nouveaux logements dans les colonies existantes. Le secrétaire d'État américain souligne que de telles mesures unilatérales exacerbent les tensions et sapent les efforts pour la négociation d'une solution à 2 États. De nouvelles arrestations dans les milieux politiques et médiatiques en Tunisie. La police tunisienne a arrêté Nourdine Biri, un dirigeant du parti Ennahda, ainsi que Nourdine Boutard, le directeur général de la radio privée Mosaïque FM. Cela arrive après une opération lancée le week-end dernier par les services de sécurité tunisiens et au cours de laquelle des militants politiques, d'anciens magistrats et un influent homme d'affaires ont été interpellés. Ce sera jeudi prochain à l'Élysée, une rencontre entre Emmanuel Macron et les participants au Forum de l'Islam de France. Le FORIF qui a été lancé il y a un an, le fruit d'un travail qui a été menée dès 2018. Parmi les travaux qui ont été menés, l'un a porté sur la sécurisation des lieux de culte. Vous êtes bien sûr Radio Orient, à 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le Flash, à 17h30 pour votre journal. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire UDI de Mennecy, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, une émission présentée par Loïc Barrière. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient, bientôt 12h18. Vite.